hors champ.
Je dis, je suis le seul à ne pouvoir parler vraiment de moi, et l'adjectif vraiment est important, ça veut dire qu'au fond, je ne suis moi-même qu'une sorte de collection d'images qui me sont renvoyées en miroir par la société, par mes lecteurs, et ce sont donc eux qui ont la vérité sur moi. Je suis en quelque sorte, moi en tant que moi-même, une espèce de zone extrêmement opaque ou fuyante d'opacité, de méconnaissance de moi-même.
Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ toute cette semaine avec et pour Roland Barthes. À l'occasion de la publication du livre de Tiphaine Samoyo qui s'intitule sobrement Roland Barthes, biographie, et à l'occasion d'événements qui vont ressusciter la pensée, l'esprit, l'humour, l'ironie, la sensualité de Roland Barthes. Nous allons commencer toute cette semaine avec vous, Tiphaine Samoyo. Donc, cette biographie sort, et au début de cette biographie, dans votre introduction, vous dites « Il n'est pas absolument nécessaire de produire un récit de vie pour mettre au jour le programme et l'apport intellectuel de Roland Barthes, et on peut s'interroger sur la nécessité qu'il y a à écrire une nouvelle biographie. Vous le faites pourtant, et de manière ô combien magnifique, mais c'est vrai que c'était très difficile, à la fois comme problématique intellectuelle et aussi culturelle, car Roland Barthes a beaucoup parlé de lui-même.
Oui, c'est toute la difficulté de décrire la vie de quelqu'un qui a essayé de multiples manières de se rendre clair, de se dire. Et quand je dis de multiples manières, on connaît bien sûr son autobiographie, son autoportrait si singulier qui s'appelle Roland Barthes par Roland Barthes, où il parle de lui la plupart du temps à la troisième personne et où il évoque par fragments ses goûts, ses désirs, son enfance. Et il faut signaler aussi que, outre les nombreux textes où il a parlé de lui-même, à la fois évidemment en se cachant et en s'exhibant, hein, dans un jeu qui, à la fois d'images, de fantasmes, hein, et sans doute aussi de vérité, il a laissé un nombre considérable de documents personnels inédits. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à ces documents qui, évidemment, à la fois augmentent cette masse d'écriture de soi qui le caractérise, qui est peut-être pas forcément connue des lecteurs ou des auditeurs, parce que c'est une masse considérable. C'est quelqu'un qui pratiquait ce qu'on pourrait appeler une écriture ordinaire, journalière, permanente, et qui révèle beaucoup de lui. Donc à la fois c'était difficile de parler de quelqu'un qui a tant parlé de lui-même, hein, parce qu'on a l'impression d'avoir un geste pauvre, hein, par rapport au sien, qui est un vrai projet d'écriture, un projet de vie esthétique. Et en même temps, tous ces documents dont il n'a rien fait, peut-être en aurait-il fait quelque chose, mais il n'en a rien fait de son vivant, cette masse de documents, il était important de la mettre au jour, de l'inventorier bien sûr, mais aussi d'essayer de voir ce qu'elle apportait à la connaissance de la personne. Et puis, pour une nouvelle découverte aussi de son œuvre, ça permet de lire les choses autrement.
Vous n'avez pas connu Roland Barthes, vous êtes beaucoup trop jeune, et pourtant, vous donnez l'impression que vous en êtes une héritière. Pourquoi avez-vous passé tant d'années à essayer de comprendre qui il était ?
Disons que je ne l'ai pas connu, en effet, c'est la question des dates de sa mort précoce, hein, puisqu'il est quand même mort avant l'âge de 65 ans. Beaucoup d'intellectuels ont une longévité plus importante que lui. Donc j'aurais pu le connaître, mais surtout je me suis rendu compte progressivement à quel point sa manière d'écrire, sa manière de penser m'avait nourri, avait été essentielle. C'est un rapport, je dirais, très enfin, peut-être, je vais risquer le mot, disons, féminin à la pensée pour moi. C'est-à-dire une manière non assertive, même s'il y a beaucoup d'assertions chez lui, on pourrait en parler, mais elles sont toujours infléchies par un autre mouvement. Sa pensée n'est pas une pensée autoritaire, ça n'est pas une pensée dogmatique, ça n'est pas non plus une rationalité, je dirais, masculine, occidentale, à laquelle mes études m'avaient habituée, parce que voilà, on est élevé dans l'héritage de cette rationalité. Et tout ce que je lisais de lui me montrait qu'il y avait la possibilité pour écrire et penser et réfléchir de manière plus buissonnière, plus souple, plus sensuelle. Voilà, c'est peut-être... enfin, ça a été très important.
Qui est Roland Barthes ?
Je me suis efforcée de... non pas de savoir exactement qui il était... mais je n'ai pas voulu imiter son geste un peu collectionneur et fragmentaire de donner de lui uniquement des images. On vient de l'entendre, il parle de lui en termes de collection, dispersion d'images, fragments, morceaux. Et il a beaucoup contribué à se rendre insaisissable aussi de cette manière. Moi, j'ai quand même essayé de comprendre une trajectoire dans un siècle. Dans ses engagements, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui présente une grande unité de personnalité, une grande cohérence de trajectoire. Donc, je ne le disperse pas en multiples périodes ou images. Je me suis mise progressivement à aimer ce personnage, bien sûr. Je pense qu'on peut pas aussi passer tant de temps à écrire la vie de quelqu'un sans que cette vie vous touche. Donc je pourrais dire ce qu'il est pour moi plus que ce qu'il est. J'aurais pas cette prétention. Je pense qu'il est quelque chose pour moi dont j'espère que cette figure peut trouver aussi peut rencontrer l'amitié des lecteurs. Mais après, je peux préciser un certain nombre de choses lorsque je dis que c'est quelqu'un qui présente une grande unité de personnalité. Il a une vie, au départ, dont je pensais qu'elle était peut-être un peu ennuyeuse, hein, si on la regarde dans sa principale continuité, qui est le fait qu'il a vécu avec sa mère de sa naissance à sa mort, à la mort de sa mère, mais c'est 2 ans avant sa propre mort.
Et en même temps,
c'est une vie beaucoup plus intéressante que limitée à quelques traits comme ça biographiques qui paraissent la rendre monotone. Déjà, c'est une vie qui est marquée par la première grande catastrophe du siècle, hein, puisqu'il perd son père à la guerre. Et là, grâce à l'anthologie qu'avait publiée l'année dernière Antoine Compagnon sur les témoignages de la Première Guerre mondiale, on a un témoignage très, très frappant de la mort du père de Barthes, hein, qui inscrit vraiment cet épisode dans l'histoire, alors que jusqu'à présent, on en avait fait la marque d'une absence qu'il fait lui-même, hein, inscrivant beaucoup cette absence, parlant peu de son père. Et en réalité, si on cherche un peu, donc non seulement on voit que cette mort a été inscrite précisément au cœur de l'histoire, hein, c'est une mort presque, disons... c'est de l'héroïsme ordinaire, enfin, c'est quand même une mort héroïque. Par ailleurs, dans ses papiers, dans ses archives personnelles, non publiées, j'ai trouvé plusieurs fiches évoquant la mort du père, mort de mon père. Cette absence, cette perte au commencement de son existence, puisqu'il a 1 an quand son père disparaît, donc englouti avec son bateau en mer du Nord, eh bien, à la fois l'inscrit dans l'histoire du siècle, hein, malgré lui, et présente une certaine importance comme un certain nombre comme ça de manques ou d'absences qui construisent sa personnalité. Donc il y a la mort de son père, mais il y a aussi toutes les années de la guerre qui sont passées isolées en sanatorium, d'abord en Isère, à Saint-Hilaire-du-Touvet, puis en Suisse, qui en quelque sorte l'absente de l'histoire. Donc il y a ces deux histoires de ces deux guerres mondiales qui sont marquées par l'absence. Ces manques sont assez déterminants. Pour construire une quête qui s'autorise ou qui se caractérise toujours par une absence d'autorité. Et c'est ce qui est le plus marquant chez lui, c'est le refus de l'autorité, le refus de la maîtrise, le refus des discours maîtres, des discours imposés, des idéologies oppressantes, oppressives. Et ça, ça présente une caractéristique très profonde qui relie à la fois son œuvre et sa vie, puisque sa relation à sa mère est aussi une relation tout à fait magnifique avec une personne qui, il dit toujours, elle ne me faisait jamais d'observation, mais qui ne lui laisse une liberté considérable et ne le juge jamais, ne le juge jamais, ne le reprend jamais. Et c'est une éducation à la liberté qui est aussi donnée, je pense, par la religion protestante, qui fait que c'est un être qui n'est pas tenaillé par la culpabilité, par le souci de la maîtrise. Voilà, ça, je pense, caractérise très bien Barthes et permet aussi de comprendre tous les multiples chemins, parfois écarts, surprenants, pris par son œuvre.
Alors, Roland Barthes est une personne qui, dans le ciel intellectuel, nous a tous appris à se déprendre des savoirs, à pratiquer une forme d'écriture. Lui, le maître du degré zéro de l'écriture, des mythologies, des fragments du discours amoureux, de textes sur Racine, sur Michelet et bien d'autres. Donc il y a cette notion d'abandon, de lâcher prise par rapport à la certitude de la connaissance. Et puis il y a aussi peut-être le scripteur de lui-même. Vous parliez de cette masse d'archives que vous avez pu découvrir, auxquelles vous avez eu accès et qui a construit votre propre travail d'écriture sur Roland Barthes. Pourquoi écrivait-il tant sur lui-même et pourquoi, à votre avis, avait-il tellement la sensation de lui-même? Pourquoi s'est-il en quelque sorte auto-analysé? Dans ce magnifique ouvrage qui s'intitule Roland Barthes par Roland Barthes, voici ce qu'il écrit sur l'enfance. « Enfant, je m'ennuyais souvent et beaucoup. Cela a commencé visiblement très tôt. Cela s'est continué toute ma vie, par bouffées. Et cela s'est toujours vu. C'est un ennui panique, allant jusqu'à la détresse, tel celui que j'éprouve dans les colloques, les conférences, les soirées étrangères, les amusements de groupe, partout où l'ennui peut se voir. L'ennui serait-il donc mon hystérie ?» Quel est ce rapport de Barthes à lui-même et pourquoi cette espèce d'auto-analyse, de capacité d'ironie sur lui-même et sur ses contemporains?
Je pense que c'est lié à ce que vous disiez précédemment, à savoir qu'il récuse tout savoir institué, tout discours de maîtrise. Et à partir de là, la seule autorité que l'on peut avoir sur son discours, c'est soi-même. Et du coup, chaque énoncé sur le monde, sur la littérature, sur la musique, s'autorise de soi, implique de s'engager personnellement, sensuellement. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui avait une conscience qui est sans doute donnée par la maladie, par l'angoisse aussi de la mort, etc. Une conscience très forte de son corps dans l'espace. Et il me semble que son ennui, l'ennui dont il parle si souvent et qui est assez difficile à caractériser, qui, d'après tous les gens qui l'ont connu, était en effet très visible, que cet ennui est la traduction d'un rapport, d'un malaise du corps dans l'espace. Et on le voit très bien lorsqu'on le voit sur des photos. Il y a des photos où il est très heureux, très à l'aise, dans une sorte d'accord entre lui-même, la situation, l'espace, et puis d'autres où il apparaît comme tout à fait engoncé, voire même laid, et où il y a une conscience très forte de ce désaccord. Alors c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de régimes, qui était obsédé par son poids, qui par ailleurs était très gourmand, très 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 épris de plaisirs sensuels de toute nature. Donc je crois que ce rapport au corps compte énormément. Et puisque l'on écrit en partant de soi, à partir de soi, et ça c'est constant chez lui, c'est-à-dire que puisqu'il ne s'autorise pas d'une raison extérieure, c'est toujours à partir de soi, eh bien ce soi implique le corps, et implique le corps dans l'espace. Et pour moi l'ennui, c'est ça, c'est tout d'un coup un malaise, une haine du corps.
Alors ce corps, il est très présent, Il est très présent dans son écriture, il est très présent dans votre biographie. Nous allons écouter Roland Barthes qui, au micro de François Val, qui a été très important
très
pour
important,
lui,
ouais.
puisque ça a été son éditeur, va parler...
Et ami.
Et ami, très proche, va parler de son rapport à l'écriture, à la lecture, de la notion de présent et du rapport du corps à l'écriture. C'est une archive de Poésie ininterrompue, l'émission de Claude Royer-Journoux consacrée à Roland Barthes. C'était le 2 novembre 1975 sur France Culture.
Je n'ai pas, en général, je ne crois pas avoir l'art des définitions, donc je ne vais pas définir ce qu'est mon présent. Je partirai d'un sentiment qu'on aurait appelé il y a 25 ou 30 ans et que j'aurais donc appelé moi-même dans ma jeunesse un sentiment existentiel pour rappeler qu'effectivement, l'une des choses qui me gênent le plus et qui me sont souvent les plus pénibles dans la vie, disons dans le métier d'écrivain ou d'intellectuel, c'est d'avoir à affronter les tâches que vous réclame en général la société, qui sont très souvent des tâches de gestion par rapport à ce qu'on a écrit. Ce qu'on vous demande, c'est d'être en somme très souvent le gestionnaire du livre ou des livres qu'on a fait. Et je me sens toujours très mal placé pour être un tel gestionnaire. Je dirais que personne vraiment ne peut se constituer le gérant, et à plus forte raison ne peut se constituer le prêtre de ses propres répétitions. Je n'ai pas à gérer mes propres répétitions, mes répétitions appartiennent aux autres ou à l'autre. Par conséquent, en fait, je ne pense qu'au présent parce que je ne peux penser qu'en désirant et que je ne peux désirer qu'au présent. Naturellement, c'est un présent large, si on veut le temporaliser, je dirais qu'il a la longueur d'onde même d'un certain type d'investissement dans un objet, dans un travail, dans un livre à faire. C'est un présent qui peut être de l'ordre de 6 mois, d'un an ou deux, peut-être même une phase plus longue, n'est-ce pas? Il y a un certain moment de ma vie où j'ai beaucoup investi dans le, disons, l'invention, j'ose pas dire la fondation, mais l'invention de ce qu'on appelle la sémiologie. Ça a duré quelques années. Et puis ensuite, j'ai désinvesti, je suis passé à un autre présent. On pourrait appeler ça une conception, je dirais, tout à fait viagère de l'œuvre. Et je me rappelle un mot de Lamartine, cité par Hugo, parlant de ce trait caractéristique des Français qui serait la passagèreté. Ce sont des néologismes de Lamartine lui-même, n'est-ce pas? Et comme dit Lamartine, la viagèreté, en jouant sur légèreté peut-être aussi. Eh bien, je me sens effectivement très proche d'une sorte de pratique viagère de ce que j'écris finalement.
Pratique viagère de ce que j'écris, vient de dire Roland Barthes, donc c'était le 2 novembre 1975.
Oui, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire exactement, mais voilà, il y a quand même toujours quelque chose qui est à la fois en attente et puis en voyage. Hein, même si le viager ne renvoie pas au voyage, je crois que s'il renvoie passagèreté à légèreté, on peut nous renvoyer viagère au voyage. Mais c'est vrai que quelque chose est toujours en suspens, en attente. C'est pour ça que le geste d'écrire sur lui et finalement aussi d'inviter un autre, quelqu'un d'autre à écrire sur lui est inclus dans son œuvre. C'est-à-dire qu'à la fois, il parle beaucoup de lui-même, mais il attend de nous. Et d'ailleurs, il suscite une vraie passion de commentaires. Hein. C'est considérable, le nombre de textes qui sont écrits sur lui. Il y a une sorte de passion aussi pour sa vie, hein, même si sa vie, apparemment, ne présente pas de saillies ou d'événements particuliers. Et j'avais trouvé dans ses archives une fiche. Alors, quand je dis fiche, il faut bien voir qu'il avait une pratique de l'écriture de soi, une pratique de l'écriture quotidienne, comme je le disais, mais qui ne prenait pas ou rarement la forme du journal, en tout cas du journal continu. Hein, ce sont des moments de journaux, mais surtout une pratique tout à fait fascinante de la fiche et du fichier, qui au départ est une pratique savante, le fichier que les étudiants font, les doctorants, pour organiser leur information ou leurs références bibliographiques, et qui devient progressivement un véritable journal avec des entrées variables qui anticipent véritablement sur les pratiques hypertextuelles d'aujourd'hui. C'est aussi ça qui rend l'édition de ces documents assez complexe, puisqu'ils obéissent à des classements, des reclassements tout à fait variables. Et donc j'ai trouvé dans ce fichier une fiche où il dit ce qu'est pour lui être écrivain. Donc c'est une fiche du 19 juillet 79, et où il écrit « Pour moi, être écrivain, entre parenthèses, désir », puisque c'est toujours, c'est aussi à la fois toujours réalisé et toujours projeté, « c'est au fond me faire tel que des critiques ultérieures pourraient parler de moi ». Donc ça confirme cette idée qu'à la fois il parle de lui, mais il parle de lui en vue d'être parlé et de nous permettre aussi ce geste de nous parler à travers lui. Parce qu'il me semble que toute sa leçon, c'est aussi ça, puisqu'il transforme, par exemple, sa véritable révolution, disons, pour moi, c'est ce qu'il fait de la lecture, c'est-à-dire un véritable acte de création, d'appropriation. Et être écrivain, c'est inviter chaque personne qui vous lit à le devenir aussi, et à prendre en charge une part de l'autre, une part de lui-même qui va être incorporée, appropriée.
Voilà. Alors dans votre biographie, Tiphaine Samoyo, vous montrez comment son corps est affecté très jeune par la maladie. Il fait partie d'une génération où d'ailleurs il va voir autour de lui des personnes mourir de cette tuberculose. Il va passer de très 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 longs moments dans des sanatoriums. Il a d'ailleurs dans son Roland Barthes, par Roland Barthes, une entrée qui s'intitule « La côtelette », où il explique « Voici ce que j'ai fait un jour de mon corps à Lézin en 1945 pour me faire un pneumothorax extrapleural. On m'enleva un morceau de côte qu'on me restitua ensuite solennellement troussé dans un peu de gaz médical. Les médecins suisses, il est vrai, professaient ainsi que mon corps m'appartient dans quelque état dépiécé qui me le rende. Je suis propriétaire de mes os, dans la vie comme dans la mort, et je gardais longtemps dans un tiroir ce morceau de moi-même, sorte de pénis osseux analogue au manche d'une côtelette d'agneau, ne sachant pas qu'en faire, n'osant pas m'en débarrasser par peur d'attenter à ma personne. » Etc, etc.
Oui, c'est une scène très drôle parce qu'il finit par balancer le petit morceau d'os par la fenêtre comme on jette un os à un chien. Ce texte est tout à fait déterminant parce que il conduit vers deux caractéristiques de l'écriture de Barthes, qui est d'un côté le fragmentaire, la décomposition du corps en fragments, mais donc du texte également en fragments, et puis la passion des signes. C'est-à-dire que la maladie, c'est aussi ce qu'on observe en permanence. Elle transforme, la maladie transforme votre propre corps en signe. Et toutes les années suivantes seront marquées par ce travail. Il évoquait tout à l'heure, à l'instant, la naissance de la sémiologie, mais ce travail sur les signes du monde, sur les mythologies, ce ne sont pas d'autre chose que des signes du quotidien, des signes du monde. Et cette passion des signes, à mon avis, elle s'origine aussi dans cette attention perpétuelle à la température, à l'amaigrissement, au grossissement, aux modifications du corps induites par la maladie. Et il faut essayer de se représenter. J'ai consacré deux chapitres à cette maladie. D'abord parce que elle occupe 6 années de la vie de Barthes, ce qui est quand même très long. Et ensuite, pour bien faire sentir que c'était une maladie qui était destructrice, qui tuait beaucoup. Il a des camarades très très proches qui meurent quand il a 20 ans, 22 ans. Bon voilà, sont des douleurs qu'il faut arriver à sentir. On ne peut pas juste en faire une phrase. Et c'est une maladie dont il ne sait pas s'il va en guérir. Donc nous, on sait rétrospectivement qu'il en a guéri, en tout cas suffisamment pour pouvoir continuer à vivre et à fonctionner socialement. Mais même s'il en a gardé des séquelles toute sa vie, mais il a vécu 6 ans dans une angoisse de la mort des autres, de la mort de ses camarades et de sa propre mort. Et il me semble qu'il y a quand même une hantise de cela dont on peut suivre le fil aussi dans le reste de l'œuvre.
Alors on voit qu'il a
toujours très visible.
On voit qu'il a très longtemps galéré. Il savait qu'il était un intellectuel, mais il n'avait pas non plus de diplôme lui permettant d'occuper un poste dans l'enseignement, même s'il va terminer en étant ce célèbre professeur au Collège de France où les gens se battaient littéralement pour pouvoir venir l'écouter. Et dans son parcours intellectuel, il va rencontrer plusieurs personnes qui vont l'accompagner, lui tendre la main, croire en lui très très jeune, alors qu'il n'est rien ni personne et qu'il se considère pas du tout comme quelqu'un qui va pouvoir exister. Ça aussi, vous rendez cette dimension de modestie très prégnante à l'intérieur de son parcours. Et vous êtes venu ce soir avec une archive inédite, celle de Maurice Nadeau, que vous avez donc interrogé dans votre travail pour cette biographie, où il va évoquer sa rencontre avec Roland Barthes. Et on va s'apercevoir que finalement, Maurice Nadeau va être déterminant pour lui, parce que il va l'accepter. Nadeau va croire en lui et va lui demander donc de travailler à ses côtés dans les différents organes de presse où il travaille. Je crois qu'au début, c'est un combat.
Oui, et Barthes le reconnaît tout de suite, hein, puisqu'il dit « Nadeau, à qui je dois cette chose capitale, un début hein, ». C'est effectivement une intronisation que lui fait Nadeau dans le milieu littéraire, à un moment où, effectivement, Barthes se pose sérieusement la question de savoir comment... D'une part, comment devenir, dans l'époque qui est la nôtre, un intellectuel critique? Comment le faire lorsque on n'a pas vécu la résistance, la guerre, mais qu'on était enfermé dans un hôpital? Comment le faire lorsqu'on n'a aucune reconnaissance institutionnelle? Puisque, comme vous le disiez, il fait vraiment partie d'une sorte de marge universitaire. Et voilà, et Nadeau l'introduit dans quelque chose d'autre, hein, qui va aussi lui permettre d'être reconnu par un plus grand public que s'il était simplement resté dans l'université, et qui est de lui faire écrire des articles importants pour combat, de le présenter à des gens qui vont être déterminants dans son parcours ultérieur.
Donc on écoute la voix de Maurice Nadeau que vous aviez enregistrée.
Je le crois très intelligent. Il est d'une intelligence, enfin, il m'a fait pénétrer trop de choses quand même, enfin. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Par exemple, sur ça de Loyola, tout ça, bon, ses déconstructions, bon. Avec son Racine, j'ai participé à son truc. Puis c'est moi qui ai publié, c'est contre Picard, je ne sais plus quand c'était, oui. Bon, j'ai publié ça, bon. Dans la mesure où il s'opposait, c'est pas le côté marginal, mais il y avait un côté de rébellion intellectuelle dans le...
Oui.
Alors c'est ça qui me plaisait chez lui. Bon, je lisais ce qu'il faisait et j'admirais. J'admirais parce que il avait une culture que je n'avais pas, il y a une culture classique qui me manque, enfin, philosophique aussi probablement, et j'étais en admiration devant sa preste, comment dire, ce côté, oui, je dirais presque un peu de... facilitateur qu'il avait de mêler un petit peu tout, hein. Il en prenait un petit peu Sartre, et la psychanalyse Lacan à un moment, il ne parlait que de Lacan, et puis, bon, tout ce qui était, pour moi c'était un peu la mode intellectuelle, bon, il prenait un petit peu partout. Je ne trouvais pas qu'il faisait une œuvre personnelle comme les autres, mais qu'il c'était quand même très au-dessus de mon niveau. Moi, journaliste, j'admirais cette façon qu'il avait de jongler avec les idées, de trouver des choses nouvelles. C'est ça.
Alors, prestidigitateur, Roland Barthes, Tiphaine Samoyau.
Non, mais je m'amuse en écoutant Maurice Nadeau parce que c'est toujours sa manière d'à la fois d'admirer et puis de donner des coups de pied par derrière. Parce que là, on voit qu'il a un rapport très ambigu à Barthes, et bon, que j'ai bien analysé dans le livre, où à la fois il est très heureux de l'avoir intronisé, et Nadeau a souvent été comme ça. Il a beaucoup aimé être l'intronisateur de jeunes écrivains ou intellectuels dans les milieux. Et puis ensuite, il s'éloigne. C'est ce qu'il aime faire, c'est découvrir plus que de maintenir. Et en effet, plus c'est allé, moins leurs rapports ont été proches, alors qu'au départ, ils étaient véritablement très amis. Et je pense que Nadeau ne perçoit pas précisément la dimension personnelle, il le dit, de l'œuvre de Barthes. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, qu'il ne va pas découvrir du vivant de Barthes.
Alors tout à l'heure, on entendait la voix de Roland Barthes qui parlait de, pas de cycle, mais qui disait qu'il investissait des champs de savoir et puis qu'ensuite il désinvestissait. Qui est Roland Barthes? Est-ce que c'est un professeur au Collège de France? Est-ce que c'est un écrivain? Lui-même se disait pas écrivain, je crois, même si on peut dire aujourd'hui qu'il est un grand écrivain. Est-ce que c'est un spécialiste de photographie? Est-ce que c'est un spécialiste de sémiologie? Il est indécidable. Lui qui revendiquait le neutre reste aujourd'hui indécidable dans ses parcours disciplinaires.
Oui, absolument. Mais c'est lié à sa méthode. À partir du moment où il ne veut pas être dans l'autorité par rapport à un champ de savoir ou par rapport à n'importe quel discours, il est obligé de l'abandonner, de le lâcher. Alors, il y a plusieurs choses. Il ne se disait pas écrivain, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne se disait pas écrivain, il met toujours l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, être écrivain, c'est toujours un désir. Et en même temps, il se reconnaît comme un écrivain, puisque même la préface d'Essais critiques, qui est un texte qui paraît au début des années 60, inscrit la différence entre une critique d'écrivain, qui est celle qu'il porte et qu'il défend, et une critique d'universitaire, qui est celle qu'il récuse et qui donnera lieu aux polémiques auxquelles Maurice Nadeau faisait allusion autour de Racine, et qu'il serait trop long de rapporter ici. Donc il a quand même une conscience de soi comme écrivain. Tantôt il affirme qu'il ne l'est pas, tantôt il affirme qu'il l'est, mais ça c'est toujours pareil avec lui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se réfugier dans une seule identité, dans quelque chose qui pourrait apparaître comme une détermination ou une prise de pouvoir par rapport à quoi que ce soit. Et donc cette volonté de ne pas avoir de discours de pouvoir, et de s'opposer aussi très fortement au discours de pouvoir de son époque, parce qu'il faut réinscrire ça aussi dans toute une époque où il y avait une démultiplication des discours d'autorité, que ces discours soient politiques, relevant de telle ou telle idéologie ou de telle ou telle nouvelle science. Voilà, et donc lui, il investit des sciences qui sont des sciences qui ne peuvent pas faire de disciples véritablement, qui sont des choses forcément provisoires sur des objets ténus.
La mode, la photographie.
Voilà. La photographie est un objet moins ténu. Et d'ailleurs, c'est vrai que son texte, qui sera au départ considéré comme un petit texte sur la photographie et surtout un texte très personnel sur sa mère, aujourd'hui est une référence importante dans le champ des études sur la photographie. Mais il n'a pas été perçu comme ça au moment où il est sorti. Et c'est pas ainsi que le voyait Barthes, qui répondait à une commande et qui en profite pour faire un texte magnifique sur sa mère. Mais effectivement, ce sont des objets ténus, aussi bien les mythologies, le steak frites, le vin rouge, ça. Mais à travers ces objets ténus ou la mode, il arrive à dire des choses extrêmement percutantes contre la colonisation, contre la guerre d'Algérie. Enfin, c'est très impressionnant comme on lit à travers tout ça un véritable engagement collectif, un véritable engagement politique, et aussi, au bout du compte, un discours de pensée qui est encore très important pour nous aujourd'hui, sans doute peut-être plus que s'il l'avait énoncé dans des livres extrêmement autoritaires et rationnels, qui auraient perdu de leur pouvoir discursif aujourd'hui.
Nous allons l'écouter au micro de Jacques Chancel. Il répond à la double question: votre parcours est-il celui d'un humaniste ou celui d'un intellectuel? Et vous méfiez-vous de ce mot « intellectuel » C'était dans Radioscopie le 17 février 1975.
Non, je veux dire que je ne m'en fais... Vous savez, je ne m'en méfie pas quand on attaque les intellectuels. À ce moment-là, je me sens absolument solidaire des intellectuels et je suis un intellectuel. Je pense que les procès qu'on fait à l'intellectualisme sont des procès, si vous me permettez, bidons. Ce sont des procès purement mythologiques qui n'ont pas de réalité et qui n'analysent pas en finesse ce que peut être la place, d'ailleurs souvent difficile, de l'intellectuel dans la société actuelle, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que je suis un intellectuel ? Oui, sûrement, je suis un intellectuel, mais de plus qui essaye de travailler avec et dans sa langue, n'est-ce pas, et non pas dans une pensée extérieure à sa langue.
Alors là, effectivement, de manière très concise, on atteint peut-être l'importance de Roland Barthes. C'est quelqu'un qui va essayer de transcrire ce qui lui arrive intellectuellement, corporellement, psychiquement, sensuellement, sensoriellement aussi, de manière la plus loyale par rapport à l'écriture.
Oui, il dit tout simplement qu'il est un écrivain, sans le dire. C'est-à-dire qu'il est un intellectuel écrivain, puisqu'il ne recourt pas à un discours qui soit extérieur à lui-même. C'est ce qu'il dit.
Il n'a pas d'idéologie.
Voilà, l'intellectuel, c'est d'abord celui qui a un rapport au monde médié, qui passe par en effet, la photographie, la littérature, le discours. Mais ce discours, il va le chercher en lui-même. Et ça, c'est la définition de l'écrivain. L'écrivain n'écrit pas avec une langue qu'il aurait été cherchée à l'extérieur de lui-même.
Dans Roland Barthes par Roland Barthes, voici ce qu'il écrit, puisqu'il parle de lui à la troisième personne. Comme vous le disiez tout à l'heure, Tiphaine Samoyeau, écrire par fragments. Les fragments sont alors des pierres sur le pourtour du cercle. Je m'étale en rond, tout mon petit univers en miettes. Au centre, quoi ? Point d'interrogation. Son premier texte, ou à peu près, 1942, est fait de fragments. Ce choix est alors justifié à la manière gidienne, parce que l'incohérence est préférable à l'ordre qui déforme. Depuis, en fait, il n'a cessé de pratiquer l'écriture courte. Tableaux, des mythologies et de l'Empire des signes, articles et préfaces des essais critiques, lexi de SZ, paragraphes tirés de Michelet, fragments du Sade 2 et du plaisir du texte. Et ensuite, comme par hasard, et vous y portez beaucoup d'attention à l'intérieur de votre biographie, il enchaîne sur le catch. Et le catch, dans sa vie, ça a été très important. Je me demande, après avoir lu votre livre, si le catch n'a pas eu une influence décisive sur sa manière d'écrire par fragments.
Au-delà du catch, c'est, je dirais, un certain nombre de lieux ou d'objets vers lesquels le portaient ses désirs les plus profonds, ses désirs sexuels. Il y a dans ses papiers personnels beaucoup plus de remarques sur l'homosexualité qu'il n'y en a dans son œuvre publiée. Et certaines de ces remarques associent son goût du fragment, du papillonnage, du passage d'un objet à l'autre, d'un goût à l'autre, d'une préférence à l'autre, à son propre désir pour les hommes, à sa propre manière de vivre à la fois sa sexualité et sa vie amoureuse. Et je crois que c'est pas anodin que il faut sans s'étendre sur tous les détails de la vie privée rapporter une partie des modes par lesquels s'exprime sa pensée à ses désirs et à son homosexualité.
À partir de quel moment a-t-il pensé que ce qu'il pensait c'était peut-être aussi important que les penseurs qu'il a étudiés ou qu'il a côtoyés? Parce que dans votre livre, vous faites des chapitres passionnants consacrés à son rapport à Sartre, à son rapport à Michel Foucault, etc. Mais on sent bien aussi que sa pensée, qu'il avait sans arrêt, il lui venait des pensées. Il a mis du temps à croire qu'il était un penseur. Et dans Roland Barthes par Roland Barthes, encore une fois, je cite ce très court fragment, « Fiché ». Je suis fiché, assigné à un lieu intellectuel, à une résidence de caste, sinon de classe, contre quoi une seule doctrine intérieure, celle de l'atopie, de l'habitacle en dérive. L'atopie est supérieure à l'utopie. L'utopie est réactive, tactique, littéraire. Elle procède du sens et le fait marcher. Et au fond, c'est un électron libre dans le ciel intellectuel, Barthes.
Oui, parce qu'on ne peut pas raccorder sa pensée à une pensée, précisément. Donc il n'est pas assignable à un système, mais beaucoup plus à une manière d'être, à une manière d'aimer, d'approcher le monde. Donc c'est compliqué de à la fois d'en faire un penseur, mais penseur de quoi ? Penseur. Je ne sais pas s'il a eu à un moment dans sa vie la conscience qu'il... Il produisait une pensée comparable à celle de ceux qu'il lisait, qu'il admirait. Il n'avait pas de goût pour l'abstraction philosophique, ni comme lecteur, ni comme auteur. Donc je crois que c'est au moment où il commence à écrire et où il se rend compte qu'il s'autorise à dire que son rapport au monde et que ses goûts valent d'être dits. Tout aussi bien que ceux de Michelet, que ceux de Chateaubriand. Voilà. Mais ces références sont moins des penseurs, philosophes ou créateurs de systèmes que des écrivains.
À partir de quand Roland Barthes devient-il Roland Barthes ?
Au moment même où il devient Herbé, comme l'a appelé Philippe Solers, dans un des premiers textes qu'il consacre à Barthes dans Tel quel, qui s'appelle Herbé, qui est ensuite le surnom dont se sert, enfin les initiales dont se sert Roland Barthes dans son autoportrait, Roland Barthes par Roland Barthes. Donc il devient Roland Barthes lorsque voilà, son nom devient autre chose que son propre patronyme.
Nous allons l'écouter, répondre à la question de Georges Charbonnier, donc c'est une archive du 10 octobre 1967. La question est, l'écrivain est-il encore un révolté ?
Je crois qu'il faut distinguer le problème de l'absurde et le problème de la révolte. Le problème de l'absurde, c'est un problème philosophiquement daté, qu'on peut circonscrire dans l'histoire, disons, de la philosophie et de la littérature, entre Kierkegaard et Camus, en passant par Dostoïevski et Kafka. Mais l'absurde, au fond, ça n'était rien d'autre qu'un sens parmi d'autres sens. Si vous voulez, l'absence de sens, le non-sens, est toujours finalement une interrogation au sens. Et c'est pour ça que l'absurde s'est parfaitement intégré, finalement, dans une sorte de philosophie et de littérature de l'humanisme. Il est resté à l'intérieur de ce cercle-là parce que, précisément, il fonctionnait comme le terme d'une antinomie qui a été reconnue depuis longtemps par notre culture occidentale. Alors, au fond, on peut dire que la disparition de cette sorte de sensibilité à l'absurde dont vous parliez, eh bien, cette disparition est infiniment plus subversive et plus radicale que l'existence de l'absurde lui-même. L'absurde, en effet, disparaît de notre champ, et c'est cela qui est véritablement subversif. Quant à la révolte, je ne crois pas qu'elle disparaisse, en tout cas des recherches d'une certaine littérature, et encore là, il faudrait s'expliquer, puisqu'on a affaire actuellement à une sorte de complexe qui tient à la fois sous sa dominance la philosophie, la littérature, l'anthropologie, la linguistique, n'est-ce pas ? Il est maintenant difficile de plus en plus de séparer ces domaines d'écriture et de pensée. Dans l'ordre de la littérature, ou en tout cas de l'écriture, on ne peut plus dire maintenant simplement « je suis révolté ». C'est-à-dire « je suis révolté » ne peut pas être le simple contenu d'un message, n'est-ce pas ? Il y a une forme d'expression, une forme de langage et d'écriture qui n'est plus possible et qui est celle qui disait simplement, comme à l'époque romantique ou post-romantique, « je suis révolté, écoutez ma révolte ».
C'est là la puissance de l'archive, c'est là la puissance du grain de la voix. C'est-à-dire écouter Roland Barthes, c'est pas indifférent, c'est pas neutre pour le coup.
Non, c'est-à-dire l'effet de présence aussi de la voix est troublant quand... Enfin, je veux dire, écrire une biographie, c'est vraiment être en compagnie de quelqu'un en permanence. Moi, je me réveillais le matin, j'avais l'impression, lorsque j'allais à ma table de travail, de retrouver quelqu'un qui était celui sur lequel j'écrivais. Mais il y avait vraiment un effet de compagnie qui était très fort et qui a rendu l'écriture de ce texte une belle aventure. Et c'est vrai que d'entendre sa voix, c'est un effet de rapprochement et en même temps de décalage par rapport aussi, sans doute, au fantasme que j'ai projeté dans ce personnage, puisqu'on n'est jamais totalement objectif. Et même si, bien évidemment, je me suis fait moi-même accompagner de sa voix régulièrement lorsque j'ai écrit. Voix qui est peut-être le trait, pour toutes les personnes qui l'ont connu, le trait le plus marquant de sa personne. Hein. Aucune des personnes que j'ai rencontrées pour écrire cette biographie et qui a connu Barthes ne m'a pas parlé de sa voix. C'est la première chose qui advient lorsqu'on évoque Roland Barthes, c'est la beauté de sa voix.
Merci Tiphaine Samoyo. En tout cas, cet effet de compagnonnage, vous nous le restituez avec beaucoup de brio intellectuel, mais aussi beaucoup avec une sorte d'amitié féconde et active. Merci beaucoup. Merci. Retrouvera Roland Barthes toute cette semaine. Demain, ça sera avec Philippe Solers. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Vincent Lecomte, Anne Kobilac, Pierre Mine. Demain, donc, Roland Barthes numéro 2 avec Philippe Solers, Herbé.